Dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Défaite du Canadien 4-0, au moins la famille de Marc-André Fleury et tous ses amis étaient bien, bien contents. C'était vraiment des bonnes images hier, là, après le match, voir les joueurs des Canadiens lui serrer la main. Puis là, ensuite, regarde la photo. Là. Tu veux la photo qui était sur NHL.com? Là?
Oui, oui, j'ai
Marc-André avec sa famille, sa femme, ses enfants, tous les membres de sa famille.
T'as Max Talbot qui est juste à sa droite aussi, je sais pas si t'avais remarqué. Là.
Dans les gradins. Hein. Ah oui, absolument.
En bas à droite,
oui,
Maxime Talbot.
En première rangée. Hey, c'est quelque chose. Hein.
Oui,
c'est fantastique,
vraiment.
Cette photo-là. Éric Bélanger du podcast La Poche Bleue, Blanc, Rouge, comment vas-tu?
Ça va bien, les gars, vous autres?
Ça va
très bien, merci.
On va commencer avec Marc-André Fleury et la belle soirée que lui a eue hier. Là. Il n'était pas bien occupé, mais tu vois une équipe qui était déterminée à remporter ce match-là pour lui et pourquoi pas un blanchissage. Ils ont joué un match des séries sur la route, défensif, phénoménal. On se passait dans les jours de Jacques Lemaire.
Les dieux du hockey, là, c'est bien fait pareil. Hein. C'était sûr que ça allait arriver, que Marc-André Fleury allait avoir un gros impact sur ce match-là. Les joueurs devant lui ont fermé le jeu. Les Canadiens ont eu quelques chances de marquer. Il y a Slav qui a frappé un poteau en première période. Il y a Anderson qui a eu une grosse présence en troisième période, qui a eu 3-4 lancés. Mais à part de ça, c'était hermétique. C'est une équipe qui est dure à jouer contre. C'est un style de jeu plate, là. C'est pas l'équipe que je paierais 500$ pour aller voir jouer parce que c'est pas excitant quand Kaprizov est pas dans l'alignement.
Ouais.
C'est efficace. C'est comme ça que tu gagnes des matchs d'hockey en séries éliminatoires. Donc, chapeau aux joueurs, chapeau à Marc-André pour sa belle carrière. Puis, je suis vraiment content qu'il ait été capable d'avoir un blanchissage à Montréal.
Qu'est-ce qui se passe depuis 4 matchs, Alec?
Ben, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'offensive est inexistante. Hier, on a eu 8 lancés en 2 périodes. C'est impossible de gagner un match en Ligue nationale. L'autre chose que je voulais parler, c'est les ajustements qui sont pas faits côté offensif. On regarde les trios de la même chose durant un match. Puis je l'ai dit souvent quand l'équipe avait de la difficulté. Quand l'équipe avait du succès, les 4 trios marchaient, puis c'est pas compliqué de coacher dans ce temps-là. Mais quand tu as de la misère offensivement, le deuxième trio hier a été très ordinaire avec Dak, Laine et Newhook. On bouge les duos de défenseurs, ça je peux le comprendre. Moi j'aurais remis Madison avec Hudson, j'aurais mis Carrier avec Jack Hyde, j'aurais mis Savard avec Struble, j'aurais roulé avec ça. Mais du côté offensif, moi je trouve que quand on a pas d'offensive de personne, il faut bouger, il faut changer les trios, il faut changer les match-ups, il faut s'ajuster. Puis c'est ce que je reproche à Martin quand l'équipe a de la difficulté, il ne fait pas ces ajustements-là.
OK. Qu'est-ce que tu pensais, parce qu'on a eu des belles discussions avec François il y a environ une vingtaine de minutes, je sais que tu étais à l'écoute,
oui.
On parlait de match-up, puis Pierre Maguire a dit hier soir, il dit écoute, il dit la veille là, John Hines a mis le trio d'Eric Sinek contre Matthews, c'est ça le match-up qu'il voulait, il l'a eu, ils ont neutralisé Matthews, donc Hines essaye la même chose. Puis Martin concède, parce que Martin, il se dit, évidemment, moi, j'ai pas de problème de jouer Suzuki, non, contre n'importe qui. Il a déjà gagné plusieurs match-ups. Mais il dit, moi, je n'ai pas fait ça. Tu viens de voir la veille, c'est ça que Hines voulait. Et si tu lui donnes qu'est-ce que lui, il veut, c'est tu concèdes l'avantage de la glace. C'est quoi ton opinion là-dessus?
Écoute, il y a plusieurs façons de voir ça, Tony. Puis moi, je vais le défendre un peu, Martin, là-dessus, parce que
oui.
Pick your poison.
Ouais.
C'est tous des trios qui sont difficiles à affronter. Puis je comprends que la veille, le trio de Erickson Heck, ils ont été bons contre le trio de Matthews. Okay? Mais moi, là, si je suis Martin Saint-Louis, puis moi, j'ai joué pour Bob Barkley, fait que je l'ai entendu, ça. Bob,
ouais.
Là, moi, je jouais avec Marianosa puis Kozlov. Bob, là, c'était toujours meilleur trio contre meilleur trio adverse, puis c'est à vous autres d'être meilleur. Fait que si c'est pour être ça le match-up, puis ils sont au courant, pour qu'ils soient meilleurs.
Uh-huh.
Suzuki contre Erickson Hack au centre, j'ai pas de problème. Zuccarello, c'est un petit joueur. Puis Boldy pour Slavkovski, c'est un joueur du même gabarit, un peu le même style de jeu. Fait que le match-up, ailier pour ailier, puis centre pour centre, il est correct.
OK. Fait que,
à mon avis, c'est pas si grave que ça qui a commencé comme ça. Mais le problème que j'ai, c'est qu'ils doivent être meilleurs. Puis si ça marche pas, change tes trios ou change tes match-up.
Ouais. Et si tu vois que l'autre trio te neutralise, Mm-hmm. Après 20 minutes, 22, 23, 24, 25, t'as 8 lancés après 2 périodes. Non. Tu dis, on s'en va nulle part, tu changes.
C'est 4-5 présences, puis s'il n'y a rien qui se passe, comme ça s'est passé hier, je change. C'est officiel que je change. Puis premièrement, à la maison, tu peux double-shifter le trio de Suzuki. Tu peux les partir en zone offensive sur des mises au jeu quand c'est un autre trio sur la glace. C'est vraiment beaucoup plus facile à faire, puis ça n'a pas été fait. Ça, je suis d'accord avec toi, Tony. Mais le fait qu'ils ont parti Suzuki contre ce trio-là, c'est pas la fin du monde. Mais le problème que j'ai, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement.
Parfait.
L'autre chose, en deuxième période, quand O'Grun a marqué son but, mais c'est pas le premier trio qui était sur la glace, c'est le troisième trio du Wild. Et puis, qui est sur la glace? C'est le trio de Suzuki, Caulfield et Slavkovski avec Madison et Carrier. Puis, Caulfield a perdu sa bagarre selon la rampe. Suzuki et Slavkovski ont triché. Madison et Carrier étaient déjà partis offensivement.
Oui.
Puis, on s'est fait marquer un but.
Puis, Carrier a trébuché, donc c'est Gaudreau qui a pris la rondelle de Caulfield de son patin à sa palette. Il passe à O'Grin. Carrier a trébuché et il a amené le bâton de Dobesch avec lui. On n'a pas parlé de Dobesch hier, là, mais évidemment, Dobesch n'a pas assez fait pour mériter le départ dimanche. Non. Ça, je vais te dire, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il a mal joué? Non.
Non.
Mais il n'a pas su garder, faire les gros arrêts, même s'il était laissé à lui seul. Parce que même le troisième but, là, c'est horrible. New Hook, là, il pense sortir du territoire et il perd la rondelle dans l'enclave.
Mais l'erreur est faite avant ça, Tony. C'est Struble qui a fait un revirement à la ligne bleue.
Oui.
Et puis New Hook aurait pu la réparer, mais il n'a pas été assez fort sur son bâton. Puis c'est Shore, là. C'était pas Wayne Gretzky dans l'enclave. Oui. Là. C'était un très beau lancer. Mais je ne mets pas juste la faute à New Hook là-dessus.
T'as raison.
Encore une fois, comme le premier but, Suzuki n'était pas sur le bon côté de la rondelle quand Caulfield a fait son revirement. Slavkovski n'était pas sur le bon côté de la rondelle. Puis la même chose sur le troisième but. Dvorak était déjà sorti de la zone quand Struble a fait son revirement. Et puis ça aurait pu être réparé, mais ça n'a pas été réparé. Les buts que le Wild a marqués hier, c'est pas parce qu'ils ont travaillé extrêmement plus fort que le Canadien. C'est qu'on a fait payer le prix aux Canadiens sur des erreurs monumentales contre une équipe qui est confiante.
Salut Tony, demande à Belly si des fois Martin devrait changer selon si les gars sont flats de passer du 1-2-2 au 2-1-2 pour la pression ou nomme le 1-3-1. C'est fait, je te pose la question.
Moi j'aimais beaucoup jouer le 2-1-2 quand je perdais dans un match. Et comme coach et comme joueur, j'aimais le jouer parce que tu es sur tes orteils.
Pour avoir un échec avant plus soutenu.
Exactement, c'est à deux joueurs, puis tout le monde, c'est du man-on-man, puis c'est de la pression partout sur la glace. Puis je serais porté à le faire contre des équipes, contre le Wild, parce qu'ils n'ont pas les défenseurs les plus mobiles au monde là, hier. Là. Donc, si tu mets de la pression sur les défenseurs rapidement, puis quand tu perds dans un match, tu n'as rien à perdre. Beaucoup d'équipes le font quand ils perdent une mise en jeu, c'est du 2-1-2 rapide. Moi, le 1-3-1, comme les Kings faisaient, je ne l'aime pas. Moi, quand je coachais avec les Lions et à Drummondville, on jouait du 1-1-3, un système un petit peu plus défensif, mais j'aimais plus ça que le 1-2-2. Mais le 2-1-2, c'est un système vraiment plus agressif que moi, j'aimais jouer beaucoup quand on tirait de l'arrière. Puis quand les gars sont flats, ça les fait moins penser sur la glace.
Excellent. Il y en a qui sont pas contents que Raphaël Harvey-Pinard a été descendu à Laval. Mais moi, je veux dire quelque chose. Je m'excuse, là. Dans la vie, là, quand vous avez une opportunité, moi, je suis le même gars qui a déjà dit que pour moi, Raphaël Harvey-Pinard joue au hockey mieux que Mike Pezzetta. Mais dans la vie, quand tu as des opportunités, il faut que tu réponds présent. Raphaël Harvey-Pinard, hier, là, dans un match où est-ce que ses compagnons, ses coéquipiers manquaient de jus, comme Martin Saint-Louis l'a dit après le match, manquaient d'énergie, il n'a rien fait pour m'impressionner, Belly. Je m'excuse, là.
Ces deux, trois premières présences, je textais avec Steve Bégin hier, on disait « Oh, il y a des jambes, il est agressif, il est sur l'échec avant, puis après ça, pouf, ça s'est éteint. » Moi, c'est cet effort-là soutenu que j'aurais aimé voir le reste du match, mais comme tu as dit, moi, je l'ai vu deux, trois présences en première période, puis après ça, c'était plus là.
8-54. Un mise en échec, zéro lancé.
Mm-hmm.
Mais là, peut-être on demande de lui donner... Peut-être que c'est pas un gars qui peut donner de l'énergie dans la Ligue nationale. Ça se peut-tu que Raphaël Harvey Pinard, à la fin, c'est un top 6 dans la Ligue américaine, mais pas assez bon pour avoir cette chaise-là dans la Ligue nationale? Donc, pour jouer dans la Ligue nationale, il faut qu'il occupe une autre chaise, mais il n'y a pas les compétences pour le faire dans les autres chaises.
Je pense que c'est ça. Il y a 2 ans, ça l'a faussé la donne quand on lui a donné la chance. Puis, comme tu dis tantôt, il l'a saisi en « s'il vous plaît » à ce moment-là. Puis, c'est ce qui a fait qu'on lui a donné un contrat à un volet. Mais depuis ce temps-là, c'est plus difficile. Puis je pense pas que c'est un gars d'énergie. C'est un gars qui est capable de jouer offensivement, mais qui a pas assez la coche pour le faire dans la Ligue nationale sur un top 6, même un top 9. C'est un bon joueur de la Ligue américaine, mais je pense pas que c'est un joueur de la Ligue nationale sur une base constante.
On va tester Dylan qui est ici aujourd'hui en studio avec Félix Olivier. Dylan, as-tu une question pour Éric Bélanger?
Bonjour, Éric.
Salut, Dylan.
Les 4 derniers matchs des Canadiens, on sait que c'est 4 défaites. Est-ce que tu crois que juste à cause de ça, on a quelqu'un qui a appelé tantôt qui disait « Ouais, c'est contre les meilleures équipes de la Ligue nationale. » Je sais que les gars du show ce matin, ils parlaient aussi « Est-ce qu'on perd espoir sur les Canadiens? » Est-ce que tu crois, Éric, qu'il faut continuer le tankathon maintenant ou est-ce qu'on va quand même pour une place dans les séries?
Écoute, le Canadien, moi, je pense que dans le dernier mois et demi, on joue au-dessus des attentes, puis moi, je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont battu des grosses équipes sur la route. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie dans ces matchs-là. Puis c'est pas une excuse parce que hier, là, le Wild du Minnesota arrivait d'un back-to-back. Fait que le Wild aussi aurait pu être fatigué hier, mais ils ont été capables d'ajuster leur match, d'être un petit peu plus responsables défensivement puis de capitaliser sur leur chance de marquer. Le Canadien, moi, je trouve que quand ils deviennent une équipe avec moins d'énergie, moins de passion, moins de hargne, ils sont flats du premier au dernier dans l'alignement. Moi, c'est là que je trouve qu'on a un problème parce que tu es capable. Quand le Canadien gagnait des matchs contre Colorado, puis Vegas, puis les Panthers, puis Tampa Bay, ça route, tout le monde jouait bien. Puis moi, j'aimais ça d'en parler parce que c'était positif, puis il n'y a personne qu'on pouvait être négatif contre. Mais dans les 2, 3, 4 derniers matchs, il n'y a pas grand gars qui se sont présentés, puis il n'y a pas grand chose de positif. Fait que moi, que le meilleur du Canadien est très bon. Mais le pas bon du Canadien, il est vraiment pas bon. Puis, il faut trouver le juste milieu. Puis, je pense qu'il y a une inconstance de ce côté-là de plusieurs joueurs quand on joue pas bien.
Félix Olivier aussi est avec moi en studio aujourd'hui. On a 2 gars qui sont en studio qui veulent assister au show. Félix Olivier, t'es avec Éric Bélanger, lui qui a joué longtemps dans la Ligue nationale. Un bon joueur, là.
Bonjour, Éric.
Salut, Félix Olivier.
Alors, moi, ma question, c'était, toi, t'as déjà vécu des passes comme ça, que tu gagnais beaucoup, mais après, il y avait des défaites. Ça doit être facile de dire, on se retrousse les manches, on va gagner, mais le faire, ça doit être hyper dur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi que vous faisiez pour aller gagner après une série de défaites?
C'est une très bonne question. Nous autres, souvent, ce qu'on disait, là, c'est on se disait toujours, on veut pas perdre 2 matchs de suite. Mais là, il y a des fois que La confiance d'un joueur de hockey puis d'une équipe de hockey, c'est très fragile. C'est la chose la plus fragile, puis on n'en parle pas beaucoup. C'est facile de critiquer puis de dire qu'il joue pas bien, mais il y a plein de choses. La fatigue, des gars blessés, la confiance mentalement, ça va moins bien. La chose là qui est le plus important pour un joueur de hockey, personnellement, moi, je pense que 80% des performances positives ou négatives d'un joueur de hockey, c'est dans la tête, c'est côté confiance. Là, le Canadien, c'est très difficile de garder confiance longtemps, mais c'est très facile de la perdre. Le Canadien l'a eu pendant 1 mois et demi, tout le monde jouait bien, tout le monde avait l'épaule à la roue, tout le monde jouait son meilleur hockey, puis d'un match à 2 matchs, à 3 matchs, à 4 matchs, toute cette belle confiance-là individuelle de chaque joueur qui a fait que l'équipe avait du succès en équipe est partie. Là, de la retrouver, c'est très difficile. Là, il faut que tu te prépares de façon plus intense individuellement. Tu te dois de faire les choses simples. Tu te dois d'avoir confiance en toi. Là, vu que tu reprends confiance tranquillement individuellement, bien là, le gars à côté de toi, puis là, l'autre gars à côté de toi, fait que l'équipe va se retrouver. Mais c'est vraiment, comme tu dis, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais la confiance, on n'en parle pas assez. L'aspect mental, on n'en parle pas assez. C'est la chose la plus importante pour un joueur puis une équipe.
Alex?
Salut Eric, moi c'est Alex, je suis en stage d'observation devant le grand Marinaro. Eric, on a eu beaucoup de discussions autour des gardiens dans les derniers jours, savoir qui on allait mettre. Puis on disait justement, si Dobelsch en sortait une grosse hier soir, qu'il y avait de fortes chances que ce soit lui dimanche et lui mercredi la semaine prochaine, qu'on mettrait Montembeault mardi. Là, il n'y en a pas un nécessairement qui a ressorti plus que l'autre. Ça serait quoi ta tangente?
Moi, c'est Montembeault. Si Montembeault gagne, c'est Montembeault. Si Montembeault gagne, c'est Montembeault.
Donc, tu irais 3-3, même si c'est un back-to-back mardi.
Non, moi, c'est déjà planifié. Montembeault, Dobelsch, Montembeault, les prochains trois matchs.
Exact. Ouais. C'est des back-to-back. Là,
mais c'est ça.
Mais ça serait Montembeault, Dobelsch, Montembeault. Exactement. Mais je veux dire, mettons là, que ça serait à tous les deux jours. Moi, j'irais. Là, il faut que tu donnes la pole à quelqu'un, mais là, tu as un back-to-back. Fait que Dobelsch va en avoir un des deux. Mais je suis d'accord avec Tony. Ça va être Montembeault, Dobelsch, Montembeault.
C'est ça qui est logique, en fait. J'aurais été curieux, par exemple, si le scénario est différent hier soir, que le Canadien gagne 4-1, mettons, là, t'aurais-tu été prêt à oser à remettre Dobelsch dimanche?
Oui.
Tu l'aurais fait?
Moi, je pense que c'est la raison pour qu'il était dans le filet. On a donné un match à chaque. Montembeault n'a pas gagné, Dobelsch n'a pas gagné. Là, si mettons, Montembeault avait gagné, est-ce qu'on a remis Montembeault hier? Peut-être, on ne sait pas à l'interne.
Oui, non, c'est sûr.
Moi, je pense qu'il y en a un des deux qu'il faut qu'il run avec la job en ce moment, là, parce qu'on est encore dans le mix, on est proche des séries. S'il y en a un qui fait mieux qu'un autre, moi, je pense qu'il faut que tu le ride pour essayer de faire un push avant le trade deadline.
Et les gars, il y a des nouvelles sur la Ligue nationale. Moi, je n'ai jamais vu ça, qu'est-ce que je vais te dire. Là. Je ne m'en souviens pas avoir vu ça dernièrement, mais peut-être que c'était déjà arrivé. Elliot Freeman, le grand Elliot Freeman de Sportsnet, là, il dit que la Ligue nationale de hockey puis l'association des joueurs, ils ont sorti des estimés de qu'est-ce que le cap, la masse salariale devrait être dans les prochains trois ans. Les gars, l'an prochain, 95,5 millions. L'année après ça, ça monte de 9 millions à 104. Et l'année après ça, ça va monter d'un autre 9,5 millions à 113,5. Et
c'est énorme.
Dans les prochains trois ans, ça va augmenter de 95 millions à 113,5.
C'est bon pour les joueurs.
C'est bon pour les joueurs. Moi, savez-vous c'est quoi je retiens qui est bon?
Oui.
C'est bon pour le Canadien. C'est tellement bon pour le Canadien. Tu viens de signer tes meilleurs éléments à faible coût.
Ouais.
Un gars, par exemple, comme Rantanen, qui va demander 14 millions.
Oui, je comprends, mais c'est bon.
Il va coûter moins cher qu'au plafond-là, mais d'avoir signé un Slavkovski, d'avoir signé un Suzuki, d'avoir signé Caulfield pour plusieurs années, ben, ça veut dire qu'avec la montée du plafond comme ça, les gros éléments que tu vas pouvoir aller chercher en étant le Canadien dans 3-4 ans quand tu vas être compétitif, tu vas pouvoir leur donner de l'argent, tu vas avoir de la place parce que tes gros éléments actuels sont déjà signés.
Excellent. Tu peux faire un argument que c'est bon pour les autres équipes aussi, qu'eux autres qui avaient pensé qu'ils n'avaient pas d'espace parce qu'ils avaient tout leur gros canon signé.
Je comprends ce que tu veux
dire. Ils vont avoir un peu de lousse maintenant.
Mais à un certain point, quand tu vas voir le Canadien qui va être plus compétitif, il y a certains joueurs qui vont être attirés aussi à venir ici.
Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose dans la radio de passer de 95 millions à 113,5 dans les prochains trois ans?
Personne ne refuserait.
En 2004, on a eu un lockout des propriétaires. On a manqué une année complète. Oh, on veut pas de cap. On se tient les joueurs. On perd un année de hockey, on a un cap de 31 millions, puis un rollback sur nos payes de 24%. Puis jusqu'à l'année passée, il y avait toujours l'escroc sur le partage des revenus entre les équipes puis les joueurs. Là, je ne sais pas si l'escroc va être encore là, mais il y avait des fois, là, on avait 15, 18, 20% de nos salaires qui étaient retenus en escroc. C'est bien beau avoir un cap salarial de 200 millions, mais si tu fais 30% de moins sur ton salaire, pour les joueurs, c'est pas mieux non plus. Donc ça, je le sais que ça a toujours été un irritant pour l'association des joueurs. J'ai hâte de voir. Mais Alex, pour revenir aux Canadiens, il faut que les joueurs veulent signer à Montréal.
Ça c'est sûr.
Un autre débat.
C'est clair. Évidemment. C'est une autre discussion complètement.
Pierre Lebrun, il a dit hier, je vais te laisser avec ça, Eric, que les Canadiens n'ont pas l'intention, à court terme, de bouger afin de remplacer Caden Gooley. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben moi, je pense qu'on va voir ce qu'on a à l'interne. Puis pour revenir avec Struble, il y a des gens qui critiquaient son rappel. On n'avait pas le choix de le rappeler. Il était sur un conditionnement à Laval. Donc, on devait le rappeler, sinon il devait passer par le ballottage. Moi, j'ai hâte de voir si on va amener 7 défenseurs sur le road trip en Californie. J'aimerais ça, si on est pour rappeler Mailloux, qui joue. Si on est pour rappeler un autre défenseur comme Mailloux puis il n'est pas pour jouer un match, rappelons-le pas. Mais je ne serais pas surpris qu'on en rappelle un pour aller dans le voyage avec 7 défenseurs.
Merci beaucoup, Éric. Bonne fin de semaine à toi. On va se parler le lundi.